I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的母亲男家
कपड़ों की लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée par Tiffaine de Requini, mais aussi Xavier Martinet, Clément Salazar, Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Quatrième et dernier volet de notre série intitulée « Réenchanter le politique ». La montée des populismes en Europe et les taux d'abstention records obligent les démocraties occidentales à chercher de nouvelles formes de participation politique pour tenter de combler le fossé grandissant entre les élites politiques et les citoyens. Primaires, tirage au sort, budget participatif, mobilisation en ligne, sondages délibératifs, les expérimentations ne manquent pas, mais elles peinent encore à s'imposer et à démontrer leur capacité à attirer les citoyens les plus éloignés de la vie politique. Alors qu'est-ce que la démocratie délibérative? Comment pourrait-elle permettre de redonner aux citoyens la main sur leur destin politique? Une véritable participation est-elle possible sans que des petits groupes monopolisent l'essentiel du pouvoir? La participation peut-elle dépasser l'échelle du quartier, de la communauté? Comment permettre aux classes populaires de s'insérer véritablement dans le débat politique? Le numérique aussi pourrait-il permettre de dépasser les échecs rencontrés depuis 30 ans? En tout cas, il y a un pays qui tente, et depuis longtemps, de mobiliser les communautés à l'échelle des quartiers, c'est les États-Unis.
Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que fait un organisateur communautaire. Et moi non plus, je ne savais pas ce que c'était avant que je n'en devienne un moi-même. J'ai été inspiré par le mouvement des droits civiques et l'idée que des personnes qui travaillent à partir de la base pour apporter un vrai changement, pour faire en sorte que les gens prennent en main leur propre destin, c'est quelque chose que je porte en moi quand je fais de la politique aujourd'hui. Bien sûr, à des niveaux et dans des lieux différents, mais le principe reste le même. Si vous arrivez à mobiliser beaucoup de gens pour aller voter, et si des gens arrivent à faire des levées de fonds à partir de petits dons, 25 ou 50 dollars, alors là, vous pouvez réellement contrebalancer le pouvoir des grands groupes et des lobbies pour influencer concrètement ce qui se passe à Washington.
Et vous avez peut-être reconnu la voix de Barack Obama, président américain le plus connu des community organizers. Il l'avait été du côté de Chicago juste après ses études et d'ailleurs il avait utilisé son expérience pour mobiliser ses troupes et pour convaincre les électeurs avec des méthodes inspirées justement par ces community organizing. Community organizing, organisation communautaire en français, un modèle par lequel on essaye de promouvoir des intérêts, mais aussi plus largement de repenser le politique. Nous allons voir ce que l'on peut tirer de cette expérience états-unienne. Les community organizing sont-elles le terreau sur lequel naîtra la démocratie délibérative de demain, ou resteront-elles de simples outils par lesquels il s'agit d'abord de contenir la colère sociale sans réellement permettre des avancées politiques probantes? Comment s'organisent-elles? Par qui sont-elles animées? Quel est leur pouvoir? Leur rapport aussi aux institutions? Voilà un certain nombre de questions qu'on va se poser ce matin. Puis on ira également du côté du Brésil, vers Porto Alegre, précisément la première municipalité à avoir mis en place un budget participatif. On en parlera tout à l'heure avec Marie-Hélène Sá Villas-Boas. Et puis enfin, on verra que les outils numériques conçus pour activer la mobilisation citoyenne constituent déjà un projet politique et que leur élaboration doit par conséquent sans cesse être interrogée. On verra ça tout à l'heure avec Clément Mabi. Mais pour parler de ces community organizing, on a invité Julien Talpin. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargé de recherche en sciences politiques au CNRS. Vous êtes par ailleurs co-rédacteur en chef de la revue Participation et auteur de cet ouvrage « Community Organizing, de l'émeute à l'alliance des classes populaires aux États-Unis » qui est paru récemment aux éditions Raison d'agir. Vous êtes donc intéressé à ces community organizing, on va le faire ce matin, ce modèle venu des États-Unis et par lequel on observe une forme de renaissance politique. On va regarder un petit peu ce qu'on peut comprendre de ce laboratoire, voir comment il fonctionne et peut-être voir aussi s'il devrait même inspirer d'autres pays et pourquoi pas la France. Vous avez passé plusieurs mois du côté de Los Angeles en 2012 pour comprendre tout ça, on va voir dans un instant. D'abord, on va peut-être commencer, Julien Talpin, par un peu de définition. La démocratie dite participative, délibérative, c'est des idées évidemment extrêmement en vogue aujourd'hui, sans d'ailleurs qu'on fasse véritablement la distinction entre les deux. Est-ce que vous pouvez nous éclairer de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de démocratie délibérative et comment distinguer les deux?
Alors,
La démocratie délibérative, c'est considérer que la démocratie ne peut pas se limiter à l'acte de vote, que la démocratie est aussi une forme de vie, une activité, et que ce qui précède le vote, ce qui précède la décision, est au moins tout aussi important. Et ce qui précède, c'est la formation des opinions, la formation de l'opinion publique et de l'intérêt général. Et donc l'idée au cœur de cette notion de démocratie délibérative, c'est de dire que pour que la démocratie fonctionne bien, il faut que les citoyens puissent réfléchir, probablement réfléchir collectivement à ce qu'ils veulent faire ensemble et à comment on peut construire l'intérêt général. Il faut des espaces pour cela. Alors, les médias jouent un rôle dans la formation de l'opinion publique, mais il faut probablement aussi d'autres espaces de délibération collective. Alors, ça peut être les réseaux sociaux, on en parlera tout à l'heure, mais on peut aussi imaginer des espaces de démocratie participative à l'échelle locale ou ailleurs. Et là, il y a plein d'expérimentations de par le monde, aux États-Unis et ailleurs, où les gens se rassemblent pour voir ce qu'ils veulent faire ensemble. Et la démocratie, c'est aussi ça. C'est par cette construction collective de l'intérêt commun qu'on va pouvoir derrière prendre des décisions ensemble.
Quand vous débarquez, Julien Talpin, à Los Angeles en 2012, d'abord on est en pleine campagne, une campagne qui vire à la réaction bien sûr de Barack Obama, qui lui-même, je le disais, a été community organizer. Par ailleurs, on est aussi dans un moment de très forte tension sociale, politique, raciale même, puisqu'on est dans une période marquée par le meurtre du jeune Trayvon Martin, cet afro-américain de 17 ans, abattu par un homme blanc chargé de la surveillance de son quartier, et son acquittement, on s'en souvient, avait provoqué l'embrasement d'un certain nombre de quartiers. C'est donc dans ce cadre-là que vous avez fait votre enquête. D'abord, on parle de community organizing, et donc évidemment on a cette idée de communauté et de communautarisme derrière. Peut-être qu'il faudrait préciser les choses, parce qu'en France, on voit ce communautarisme comme quelque chose qui est lié à une appartenance ethnique, culturelle, religieuse. En réalité, aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez différent, peut-être beaucoup plus large.
Alors effectivement, la notion de communauté qu'il y a derrière cette idée de community organizing n'est pas forcément celle qu'on entend immédiatement et qu'on comprend immédiatement en France. C'est plutôt ce qu'on pourrait appeler une communauté d'expérience ou une communauté de destin. Au fond, ce qu'on appelle le community organizing, c'est des associations, principalement dans les quartiers populaires aux États-Unis, qui visent à rassembler des gens en fait très différents. Des Noirs, des Latinos, des Blancs, des classes populaires principalement, mais aussi des classes moyennes, et de créer des ponts entre ces différents groupes. Alors, effectivement, il considère qu'il existe néanmoins des groupes sociaux ordinaires, des Noirs, des Latinos, non pas objectivement en fonction de leur couleur de leur peau, mais que, au fond, on les fait exister par le racisme qu'ils subissent. Et que c'est cette expérience de l'inégalité, du racisme, qui fait exister des groupes et qu'il est intéressant de les rassembler dans des associations qui visent à améliorer le sort de ces quartiers par des campagnes sur le logement, l'emploi, le transport. Parce que l'idée, c'est que, au fond, aussi latino ou noir que l'on soit, eh ben, on a des intérêts communs, parce qu'on habite dans les mêmes quartiers, et donc l'amélioration de l'école du coin ou l'amélioration des transports en commun, ça nous concerne tous.
Oui, donc en réalité, le communautarisme aux États-Unis, c'est quelque chose qui se rattache au territoire, à l'expérience. Alors, il se trouve que parfois, effectivement, cette expérience et ce territoire rassemblent des communautés qui sont ethniquement, culturellement peut-être homogènes, mais pas toujours. Donc, en réalité, on a une vision totalement faussée de ce qu'est le communautarisme.
Effectivement, moi, je pense qu'il y a un intérêt à déconstruire cette notion de communauté et à regarder comment ça fonctionne. Et c'est ça que j'essaye de faire dans mon livre. Alors, je vais pas vous dire que tout va bien non plus aux États-Unis. C'est pas du tout le sens de mon livre. Il y a des stéréotypes. Il y a une forme de racisme qui est très présente dans la société. Mais tout le travail de ces organisations communautaires, c'est précisément de dépasser ces tensions et ces divisions pour créer du commun et du changement social dans l'intérêt des classes populaires.
Alors, on va s'intéresser donc à ce community organizing. Pour ce faire, il faut évidemment évoquer une figure absolument centrale, Saul Alinsky.
As far as I'm concerned, living in the world as it is, you don't have the choice of what's best. Every judgment that is made on the basis of alternatives.
À mon avis, vivre dans le monde d'aujourd'hui, c'est ne pas pouvoir choisir ce qu'il y a de mieux. Tous les choix qui sont faits le sont sur la base d'alternatives. Dans ces conditions, je suis engagé dans l'idée que ce qu'on appelle une société démocratique libre et ouverte est le meilleur mode de vie que nous ayons. Néanmoins, quelque chose soulève des interrogations dans ce mode de vie. C'est le fait, alors même que les choses sont toujours changeantes, quel que soit le futur d'une société ouverte, nous devrions avoir autant de gens que possible impliqués en tant que citoyens, qui soient capables d'agir en tant que citoyens, d'exercer leur pouvoir.
Voilà, c'est une archive de 1967, il y a quasiment 50 ans. On a donc un Saul Alinsky qui est considéré comme le père de... Oui, celui qui a fondé finalement ce modèle-là, qui est dans une émission d'un homme très connu, un journaliste, essayiste, conservateur américain qui est William Buckley. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être dans quel contexte apparaissent ces community organizing?
Alors, ça apparaît d'abord à Chicago, au milieu à la fin des années 30, dans une situation sociale extrêmement difficile, effectivement. Et il y a un contexte politique aussi qui explique la mise en œuvre de ces méthodes et ce projet du community organizing par Saul Alinsky. C'est au fond de se dire que les partis politiques et les syndicats, à l'époque, ne représentent qu'une partie de la population, une partie des classes populaires, et qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas représentée, qui n'est pas organisée collectivement. C'est principalement les Noirs, les immigrés, et les chômeurs. Et de dire que ces gens qui sont souvent dans les situations sociales les plus difficiles ne sont que très très mal représentés par les partis et les syndicats, il faut faire quelque chose au fond. Et c'est un peu entre les partis et les syndicats que vont se créer ces associations de quartier pour aller toucher, mobiliser, organiser ces populations qui ne le sont pas. Et ce qui permet de faire un parallèle assez facile avec la France aussi, quand on voit les difficultés que rencontrent aujourd'hui les partis politiques comme les syndicats à toucher toute une partie des classes et des quartiers populaires. Et ben, on se dit peut-être que le community organizing peut donner des idées de ce point de vue.
Oui, effectivement, on se dit que peut-être qu'il fut un temps où il y avait des syndicats et même des partis, et je pense là en particulier au Parti communiste, qui s'occupaient finalement d'une certaine manière de mobiliser et de créer du débat pour ces classes-là. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont assez largement dépassés. D'ailleurs, on le voit dans les scores du Parti communiste. Très concrètement, comment ça fonctionne un community organizing?
Alors le community organizing, ça fonctionne sur trois piliers principaux. L'idée, c'est que si on veut que les gens s'investissent dans la vie démocratique, dans la vie de la cité, il faut les mobiliser. Ce n'est pas forcément toujours naturel, immédiat. Donc le premier pilier, c'est la mobilisation, notamment quand on s'intéresse aux quartiers et aux classes populaires.
Donc concrètement, ça veut dire on fait du porte-à-porte,
on fait des réunions d'appartements, on va les chercher à la sortie des matchs de foot ou de basket, à la sortie de l'église, etc. On met en place des méthodes assez sophistiquées pour aller les chercher, les faire sortir de chez eux.
Deuxième pilier,
c'est la formation. C'est l'idée de dire, ces associations de community organizing sont assez professionnalisées, on va chercher les gens, mais il ne faut pas que ce soit les professionnels, les salariés qui soient sur le devant de la scène. Il faut que les gens parlent pour eux-mêmes. Et donc, on va mettre en place des méthodes d'éducation populaire. On va former les gens à prendre la parole, à raconter leur histoire, à s'organiser par eux-mêmes. Également, à comprendre les tenants et les aboutissants des problèmes. Comment fonctionne la prise de décision aux États-Unis, comment fonctionne le système de transport ou l'éducation publique. Parce que c'est par ces connaissances, ce savoir, qu'on va pouvoir agir dessus. Donc, mobilisation, formation. Et troisième pilier, c'est le pragmatisme. L'idée que, notamment quand on s'intéresse aux classes populaires, elles n'ont pas le temps d'attendre le grand soir. Et qu'il faut, ici et maintenant, trouver des solutions concrètes pour améliorer leur sort et leur vie quotidienne. Et donc, on va mettre en place des campagnes très concrètes pour faire avancer les choses, avec l'idée également que ce qui va nourrir l'engagement, ce qui va nourrir la vie démocratique, c'est de montrer que ça vaut la peine de s'engager, de participer.
Donc c'est pas un espace dans lequel, finalement, on ne fait qu'exprimer ces ressentiments. C'est aussi un lieu où on invite les citoyens à faire des propositions. Alors après, il faut voir ce que deviennent ces propositions. Mais c'est ça aussi l'enjeu.
C'est exactement ça. C'est on part de la colère ordinaire des gens, qui s'exprime notamment dans les porte-à-porte, pour construire quelque chose, des propositions, des idées qui doivent devenir des propositions de politique publique et qui doivent changer ici et maintenant la vie des gens. Parce que c'est ça qui décourage beaucoup aujourd'hui les participants à des expériences de démocratie participative en France ou en Europe, c'est de voir que souvent leurs paroles ne changent rien.
Vous avez des exemples justement très concrets où des choses ont changé?
Alors j'ai suivi moi beaucoup de campagnes en Californie, à Los Angeles. Un des gros enjeux auxquels s'attaque le community organizing, c'est la question des conditions d'éducation dans les quartiers pauvres suite à la crise des subprimes, la crise de 2008. Il y a eu pas mal de coupes dans les budgets publics. Et là, ces organisations ont décidé de se mobiliser pour demander à l'échelle californienne, parce qu'il y a des coalitions au fond à l'échelle californienne, d'augmenter les impôts des contribuables les plus fortunés pour financer les services publics et notamment l'éducation dans les quartiers pauvres. Ils ont notamment mis en place un référendum d'initiative populaire, puisque la démocratie directe est très développée en Californie, c'est l'État au monde après la Suisse qui a le plus recours. Ils ont récolté des signatures. Un peu contre toute attente, le référendum va l'emporter et va se traduire par tout ce travail de terrain pour convaincre les gens de l'importance de cette question, va se traduire par 6 milliards de dollars supplémentaires chaque année pour financer les services publics et notamment l'école dans les quartiers pauvres.
Ah oui, donc ça c'est absolument considérable. Quand vous arrivez, vous, à Los Angeles en 1912, on a eu évidemment 20 ans avant des émeutes terribles. C'est vrai que même aujourd'hui, hein, 25 ans après, quand on pense à Los Angeles, on pense à ces émeutes de 92. On se souvient que c'est des émeutes qui avaient éclaté suite à l'acquittement des policiers qui avaient tabassé Rodney King. Est-ce qu'on peut dire que ces violences de 92 à Los Angeles ont constitué peut-être un point de rupture dans la manière dont les pouvoirs publics appréhendent ces community organizing? Est-ce qu'on s'est dit là qu'il fallait absolument miser sur elles?
Alors je dirais qu'effectivement c'est un tournant dans l'histoire sociale de la ville de Los Angeles qui est très important, c'est le point de départ de mon livre et c'est pour ça que j'ai voulu m'y intéresser. C'est un tournant du côté des pouvoirs publics qui vont investir pas mal d'argent pour reconstruire la ville qui avait été assez largement mise à mal par les émeutes, mais c'est surtout un tournant aussi beaucoup plus largement dans le monde des fondations et de la philanthropie qui sont le principal financeur en fait du community organizing. Il y a beaucoup d'argent qui va arriver donc public mais également privé suite aux émeutes, avec l'idée qu'il faudrait peut-être éviter que ce genre de choses se reproduisent et que la colère pourrait s'exprimer peut-être de façon plus constructive. Et donc, beaucoup de fondations vont investir dans des associations dans les quartiers populaires et c'est là-dessus que vont s'appuyer les organisations communautaires pour se construire.
Est-ce que c'est la raison pour laquelle, d'une certaine manière, on peut dire que l'État s'est désengagé de tout ça? Parce que, je l'ai dit, Obama a été community organizer, donc il sait combien c'est un outil puissant sur lequel il faut investir. D'ailleurs, il le disait un peu tout à l'heure dans l'extrait qu'on a choisi. Et d'ailleurs, il s'était beaucoup appuyé sur ça aussi durant sa campagne. C'est quelque chose qu'il avait beaucoup mis en avant, qu'il avait aussi utilisé pour mobiliser ses troupes, je le disais. Et pourtant, il n'a pas toujours fait montre de son soutien vis-à-vis de ces organisations. Quand on regarde les budgets qu'il a fait voter, très souvent, on a réduit les crédits qui étaient alloués au community organizing. Alors, comment comprendre ça? C'est parce que, précisément, les entreprises privées se sont chargées de les financer?
Alors, c'est une question très large. D'un côté, quand on parle de la régulation sociale aux États-Unis, il y a eu effectivement, depuis une trentaine d'années, on peut dire, un démantèlement de l'État-providence. Et beaucoup, en fait, des services publics qui étaient autrefois assurés par l'État, un peu comme en France, même si ça n'a jamais été aussi universel, qui étaient à l'époque donc assurés par l'État, qui ont été décentralisés vers des associations, vers la société civile, qui font de l'aide aux devoirs, de l'insertion professionnelle, à la place de l'État, alors qu'on pourrait considérer que c'est des services publics. Obama n'a pas infléchi cette tendance. Au fond, il s'est inscrit dans ce mouvement de privatisation de l'État social. Si bien que...
Oui, mais on aurait pu attendre autre chose de sa part à lui.
Alors, effectivement, c'est une grande déception, en tout cas, moi, de la part des acteurs que j'ai pu interviewer.
Ils vous l'ont dit.
Sur le terrain. Mmh. Oui, il y a une déception. Alors après, ils sont partagés. C'est-à-dire que ça reste néanmoins, l'élection d'Obama reste notamment pour la communauté noire un moment tout à fait historique de reconnaissance de leur capacité politique et de leur inclusion dans la nation américaine. C'est quelque chose qui reste essentiel et ce qu'on a vu en 2012, dès 2012 en fait, il y avait une grande déception à l'égard du premier mandat d'Obama. Néanmoins, les noirs, soit aussi un peu vrai des latinos, mais les noirs revotent de façon très très massive pour Obama. Donc c'est compliqué. On est déçu et en même temps les alternatives sont tellement maigres que on est bien obligé de voter pour lui.
Faisons un peu de sociologie, Julien Talpin. Quel est le portrait type de ces personnes qui justement s'investissent dans ces community organizing? C'est quoi le parcours, la trajectoire type? Qui sont les acteurs qu'on retrouve derrière?
Alors on peut dire qu'il y a deux types d'acteurs. Il y a d'un côté, on peut dire des gens qui sont issus des quartiers populaires mais qui en sont sortis, qui ont une trajectoire d'ascension sociale, qui vont faire des études, etc., et qui reviennent par leur emploi de salariés dans ces associations, dans ces quartiers. Quelque chose qu'on entend beaucoup là-bas, c'est « give back to the community », rendre à la communauté ce qu'elle m'a donné, ce qu'elle m'a permis d'obtenir. Donc ça, c'est au fond un peu une sorte d'avant-garde des quartiers populaires qui va travailler dans ces associations pour créer de la mobilisation. D'un autre côté, on a les militants, les bénévoles, les participants ordinaires de ces associations qui sont là, des gens beaucoup dans une situation beaucoup plus précaire. Moi, j'ai interviewé pas mal d'anciens SDF, par exemple, qui sont encore qui ont trouvé une situation un petit peu plus stable, mais qui sont quand même pas dans une situation très très louable. Il y a beaucoup de sans-papiers également, et par exemple 50% des membres de ces organisations vivent sous le seuil de pauvreté.
D'accord, donc la critique selon laquelle finalement ces community organizing favoriseraient d'une certaine manière les plus forts, les plus méritants, les plus habiles de la communauté, elle est peut-être un peu abusive.
Elle est à mon sens un peu abusive, et d'autant que les propositions qu'ils mettent en avant et les campagnes qu'ils lancent vise précisément à bénéficier aux plus précarisés. Donc c'est effectivement un peu dur de dire ça, je trouve.
Est-ce que les community organizing sont une bonne école pour devenir un politique professionnel, ou est-ce que Barack Obama est une exception totale?
Barack Obama n'est pas une exception, et j'ai envie de vous dire qu'il a fait des émules. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les quartiers pauvres aux États-Unis qui se disent « je serai peut-être l'Obama de demain ». Et c'est effectivement un tremplin. Moi, une des associations que j'ai étudiées, sa fondatrice, qui a créé l'organisation juste après les émeutes de 92 auxquelles vous faisiez référence, est devenue par la suite élue et est aujourd'hui députée à Washington. Donc ça peut être un tremplin. Néanmoins, il y a des débats au sein du milieu du community organizing, avec l'idée que c'est pas forcément la trajectoire la plus logique. Au fond, community organizing cherche avant tout à constituer des contre-pouvoirs locaux. Et donc pas forcément à investir le jeu politique et à conquérir le pouvoir, mais avec l'idée que qui que ce soit qui demain gagnera les élections ou sera au pouvoir à l'échelle locale ou nationale, il faudra toujours des contre-pouvoirs pour contrebalancer les décisions qui seront prises, et par le simple fait que le jeu institutionnel, le fonctionnement du système politique fera que les élus vont s'éloigner de leur base. Et donc il faudra les rappeler à leurs promesses, il faudra les titiller.
Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir une forme de schizophrénie chez ces acteurs qui d'un côté se disent « nous sommes le contre-pouvoir et donc on est en opposition quasiment permanente avec nos élus, que ce soit les maires, les gouverneurs, etc. » Ou est-ce que, et puis de l'autre côté, finalement, ceux qui se disent, mais pour véritablement changer les choses, il faut pénétrer le système et donc d'une certaine manière trouver un moyen d'articuler notre action avec l'action publique.
Alors je ne parlerai pas de schizophrénie, mais de tension, effectivement, et je le rappelais tout à l'heure, c'est des organisations très pragmatiques, et au fond, ce qu'ils essaient de faire, c'est d'avoir une stratégie précise pour accroître le pouvoir des classes populaires. Et donc, ce qu'ils font tout simplement, c'est qu'ils regardent la situation. Si tel élu peut être un allié de l'intérieur, comme ils les appellent souvent, ils vont travailler ensemble, ils vont essayer de trouver des compromis et trouver des décisions communes. Si à l'inverse, ils ont le sentiment que les élus et les gens au pouvoir ne respectent pas leurs promesses ou prennent des décisions qui vont à l'encontre des habitants des quartiers, bah là, on va rentrer dans du rapport de force, dans de la conflictualité.
Quel bilan est-ce que vous faites de votre expérience au sein de ces community organizing? Est-ce que finalement vous dites que le résultat est à la hauteur des espoirs, des espérances qu'on avait mis en elle? Et puis surtout, est-ce qu'il vous semble que ça a permis quand même, que ça permet d'enrayer la défiance à l'égard des politiques?
Alors, le bilan est partagé. D'un côté, moi, ce qui m'a frappé sur le terrain à Los Angeles, c'est une forme d'énergie et de dynamisme démocratique incroyable. Et moi je mène des recherches également dans les quartiers populaires en France, et c'est quand même beaucoup plus difficile de mobiliser les gens, et notamment les classes populaires et les précaires, ce qui ne peut pas dire qu'il n'y a pas des expériences intéressantes, mais c'est difficile. Et là-bas, il y a un souffle, ils parviennent à mobiliser des gens, et rien que cette capacité à mobiliser régulièrement des milliers d'habitants de ces quartiers, c'est déjà une prouesse en soi.
Pourquoi on n'y arrive pas en France?
Alors il y a plein de raisons, et il y a au fond une forme de défiance avec ces formes plus autonomes aussi de participation. Je parlais de contre-pouvoir tout à l'heure. En France, on a une tradition jacobine, centralisatrice, où il y a l'idée que l'élu, et l'élu local également, doit avoir le monopole de l'intérêt général. Ces formes de participation plus autonomes sont souvent vues d'un mauvais œil par les élus, qui viennent un peu les embêter, et c'est bien leur rôle. Et donc on a du mal à faire leur place. Et moi, je pense qu'il y a un réel enjeu démocratique aujourd'hui dans la société française à faire de la place pour des contre-pouvoirs et des formes plus autonomes de participation, parce que le risque, sinon, c'est que la colère, moi, que j'entends dans les quartiers populaires via les entretiens que je fais avec les habitants, elle s'exprime autrement.
Oui, elle est d'autant plus importante qu'on le disait tout à l'heure. C'était avant, cette mobilisation, elle se faisait finalement par l'identité de classe, et que ça fonctionne plus. Donc, il faut qu'on trouve de nouvelles formes de mobilisation.
Alors, je pense que la classe peut continuer à constituer un élément, et c'est probablement pas la seule. C'est-à-dire que
l'attachement... Non, mais on voit très bien que dans les discours, on parle plus de classe précisément, mais qu'on parle de quartier. Mm-hmm. Et d'une certaine manière, on a glissé vers ce modèle américain. Et le community organizing pourrait répondre justement à ce défi. On le sent.
Tout à fait. Alors, il y a une pluralisation des identités, donc des modes d'appartenance qui peuvent être des supports de participation. Il y a le quartier, le territoire, qui est un élément important. Il y a quand même l'identité sociale qui demeure tout à fait essentielle. Et il y a un élément, moi, qui me frappe. Alors là, je vais faire le parallèle avec mes recherches françaises, mais c'est également le sentiment de discrimination d'une partie des habitants des quartiers populaires, qui est extrêmement fort. Et là, je parle des minorités, des descendants de l'immigration, qui sont français, deuxième, troisième génération, et qui ont le sentiment de pas toujours être traités comme les autres, d'être un peu des Français de seconde zone. Et là, il y a une colère très forte sur laquelle on peut également s'appuyer pour mobiliser dans les quartiers populaires en vue de promouvoir l'égalité. Et là, les États-Unis résonnent auprès de ces habitants des quartiers populaires français avec l'idée que le mouvement des droits civiques, le community organizing, ça peut donner des idées pour s'organiser collectivement. Et il y a d'ailleurs une importation qui est en marche.
On va retrouver dans un instant une nouvelle invitée par téléphone pour parler de Porto Alegre et du budget participatif. Mais encore un mot pour voir finalement ce qu'on peut aller puiser dans ce modèle américain. Il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup aux États-Unis, c'est le référendum d'initiative populaire. Et en particulier d'ailleurs dans depuis les années 70, du côté de la Californie, où je crois qu'il y a depuis plus d'un millier de référendums d'initiative populaire. Alors, et de questions, pourquoi est-ce que la Californie en particulier? Et puis surtout, est-ce qu'on pourrait développer cet outil-là, nous, ici en France?
Alors,
est-ce qu'il le faudrait?
Alors, effectivement, il y a une tradition en Californie, dans d'autres États également, aux États-Unis depuis le début du XXe siècle, qui est liée quand même à une défiance à l'égard des élus et des partis politiques. Le fait que les partis politiques demeurent assez faibles là-bas, en partie des coquilles vides, et les référendums d'initiative populaire viennent combler ça. Ça permet des choses, ça va un peu dans les deux sens, des avancées qu'on peut considérer comme progressistes. Le mariage homosexuel, par exemple, qui a été souvent obtenu de cette façon-là, la légalisation du cannabis également dans un certain nombre d'États, mais également parfois dans d'autres directions. Donc c'est un peu du rapport de force, les référendums d'initiative populaire, entre d'un côté les lobbies patronaux, etc., et puis les lobbies populaires qui incarnent les syndicats et les organisations communautaires. Est-ce qu'il faut aller dans cette direction-là? Moi, je pense que ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que les mécanismes de démocratie directe posent la question du pouvoir de façon centrale. Une des difficultés que rencontre la démocratie participative en France depuis longtemps, c'est qu'elle est dénuée, justement, à bien des égards de pouvoir. Et donc, il faut permettre aux habitants, aux citoyens, d'avoir davantage de pouvoir sur leur propre vie. La démocratie directe est probablement une des voies pour cela.
France Culture. Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde, cette semaine, autour de cette série qu'on a intitulée « Réenchanter le politique », aujourd'hui « Inventer la démocratie délibérative ». On est avec Julien Talpin, on va s'intéresser au budget participatif. En 1989, la ville brésilienne de Porto Alegre avait mis en place ce budget participatif. C'est la première fois que cette expérience était tentée dans cette grande ville.
Le budget participatif est une expérience essentiellement conflictuelle. Pour fonctionner, le gouvernement doit être prêt à accepter les critiques et à comprendre que ces critiques sont nécessaires, fondamentales dans un processus démocratique. Ici, à Porto Alegre, plus de la moitié des avis émis par la population sont des critiques. Et c'est normal, cela fait partie du processus. Par ailleurs, le gouvernement doit se soumettre aux décisions, sinon le processus perd son crédit. Ici, ce qui est décidé par la population doit être respecté. Quand il y a des accords, le gouvernement doit négocier pour convaincre la population du bien fondé de ses arguments. Dans le Conseil du budget participatif, le gouvernement a le droit de parole, mais pas le droit de vote.
Voilà. Donc depuis, il y a beaucoup de villes qui se sont mis à ce budget participatif. Regardons la capitale française, Paris, où pour l'année 2016, le budget participatif atteint 100 millions d'euros, c'est-à-dire c'est une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. Bonjour Marie-Hélène Savillas-Boas.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignante en sciences politiques à l'Université d'Avignon. Alors c'est pas tout à fait un hasard si tout a commencé dans cette ville de Porto Alegre. Pourquoi finalement elle était particulièrement propice pour faire naître cette expérience de démocratie sociale?
Oui, alors à Porto Alegre, il y a une tradition associative qui puise ses origines dans... notamment dans un courant catholique lié à la théologie de la libération qui a consolidé, qui a mené à une consolidation de beaucoup d'organisations du mouvement social au sortir de la démocratie, de la dictature, excusez-moi. Et ce milieu associatif a contribué à la création du Parti des Travailleurs. Et lorsque le Parti des Travailleurs est arrivé au pouvoir, je dirais qu'il y avait une série de conditions réunies, tant du fait du projet du Parti des Travailleurs, qui était une ambition d'inclusion des exclus, d'acteurs habituellement sous-représentés dans le champ politique, et l'existence d'un milieu associatif dans les quartiers populaires notamment, qui avait une capacité forte de mobilisation de ces mêmes groupes sociaux. Donc effectivement, l'expérience de Porto Alegre a pu prendre entre guillemets parce que il y avait un contexte favorable et notamment une tradition associative relativement forte.
Et d'ailleurs, effectivement, c'est de là que finalement tout a commencé. Hein. C'était l'ancienne place forte du Parti des travailleurs de Lula. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots très rapidement comment ça fonctionne très concrètement. Vous avez l'occasion vous d'assister à des assemblées d'habitants, de citoyens. Racontez-nous comment ça se passe concrètement.
Oui, alors le dispositif a évolué. Donc, en fait, on ne peut pas parler d'un budget participatif. Il y en a plein, et y compris durant les gouvernements du PT à Porto Alegre, il y a eu beaucoup d'évolutions. Mais dans les grandes lignes, c'est un dispositif qui repose sur trois étapes, avec un premier cycle d'assemblées réalisées au niveau micro-local. Donc, bien souvent, ces assemblées se déroulent dans les quartiers populaires, où des propositions de programmes d'action publique concernant l'urbain, la ville, sont réalisés par les participants et parfois par des représentants de la municipalité eux-mêmes. Ensuite, à l'issue de ce premier cycle d'assemblée, des délégués sont élus et un second cycle d'assemblée réunit ces délégués pour faire le point sur l'ensemble des propositions et déterminer des priorités d'action publique pour la ville. Et notamment hiérarchiser les propositions en fonction de critères, notamment des critères de justice sociale, des critères liés à une forme d'équité en fait entre les quartiers, entre les territoires. Et enfin, il y a une troisième étape qui réunit des représentants, qui veille au bon déroulement du dispositif et à la mise en œuvre des programmes.
Il y a une chose que je voudrais comprendre, Marie-Hélène Savillas-Boas. Dans les années 90, Porto Alegre est vue comme la ville de toutes les nouveautés, la ville de toutes les innovations, en pleine mutation, qui bouge tout le temps, qui propose des solutions. Et tout le pays, finalement, regarde Porto Alegre. Le PT, d'ailleurs, on l'a dit, avait gagné les élections juste après la fin de la dictature militaire. Donc on voyait cette municipalité comme une forme de laboratoire que tout le pays regardait. On regardait tous les bienfaits de la gestion qui était faite. Sauf que, bizarrement, quand Lula est devenu président en 2003, dès l'année suivante, le PT a perdu les élections à Porto Alegre. Comment le comprendre ? Et est-ce que les fragilités finalement du modèle qu'on voit aujourd'hui dans la crise politique que traverse le pays, est-ce que ces fragilités étaient déjà apparues finalement ?
Oui, alors bon, c'est difficile de faire un lien entre l'élection de Lula et la perte de Porto Alegre, puisque ce sont des échelles de gouvernement un peu différentes. Bon, en revanche, il y a un élément qui est important, qui est que l'expérience de Porto Alegre et son succès a mené à une grande circulation du dispositif, a influencé beaucoup de municipalités, et le centre d'attention a pu se déplacer progressivement avec l'institutionnalisation de l'expérience de Porto Alegre. Donc, par exemple, le budget participatif de Belo Horizonte a pu attirer le regard des chercheurs et également de la communauté internationale. Et en fait, il y a eu une pluralisation des expériences jugées intéressantes. Donc, Porto Alegre a perdu dans les années 90 un peu son rôle d'expérience unique quelque part. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est lié aux effets du dispositif, c'est-à-dire que Porto Alegre est une expérience très singulière parce que c'est une expérience qui a eu des effets redistributifs importants. En même temps, il y a beaucoup de propositions qui n'ont pas été réalisées, y compris sous la gestion du Parti des travailleurs, puisque bien souvent, le dispositif menait à la définition d'un nombre considérable en fait de propositions, et c'est la non-réalisation des propositions a aussi érodé sous la gestion du Parti des travailleurs, la légitimité du dispositif. Et enfin, par rapport au Parti des travailleurs lui-même, les affaires du Mensalan, les affaires de corruption qui ont touché le PT sous le premier gouvernement Lula, a bien entendu aussi changé la relation entre certains mouvements sociaux et le Parti des travailleurs.
Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de tout ça ? Cette expérience pionnière de Porto Alegre, l'héritage, c'est quoi ?
L'héritage à l'échelle internationale, il est considérable, puisque le budget participatif a circulé dans le monde, en Afrique, y compris en Asie. Enfin bon, il me semble que c'est vraiment une expérience qui a inspiré beaucoup de de d'autres régions géographiques. Et au niveau, enfin, à l'échelle brésilienne, l'héritage est la valorisation de la participation comme mode d'action publique. Et à mon sens, l'expérience de Porto Alegre est, sur cet aspect-là, extrêmement importante pour comprendre pourquoi aujourd'hui, au Brésil, il n'y a pas un seul secteur d'action publique. Bon, j'exagère un peu, mais c'est vrai que la plupart des secteurs d'action publique comprennent un dispositif participatif. Parce que c'est une manière de légitimer les décisions, c'est une manière de les rendre acceptables, c'est une manière également de donner du sens à la politique. Là, vous parliez de réenchantement du politique, mais effectivement, la participation réenchante, même si parfois ses effets sont limités, insatisfaisants. Et en même temps, effectivement, c'est une... les dispositifs permettent de donner de la lisibilité à un mode de décision qui n'est pas forcément lisible pour les citoyens ordinaires.
D'accord. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous dites qu'au-delà du fait qu'effectivement il y a d'autres villes du monde qui sont inspirées de ce modèle-là, c'est aussi quelque chose qui a permis de multiplier les dispositifs participatifs. Pardon. Vous avez par exemple étudié les conférences de femmes de Recife. C'est peut-être d'une certaine manière le résultat aussi de cette expérience pionnière. Julien Talpin, réaction sur ce modèle, cet outil?
L'expérience brésilienne demeure quand même extrêmement intéressante, inspirante. Et moi, j'ai travaillé sur des budgets participatifs en Europe dans les années 2000. Et je dois reconnaître que ça avait un peu moins de souffle. Ce qui est intéressant, moi, je crois, notamment dans la première expérience de Porto Alegre, c'est de se dire que en changeant les règles du jeu politique, on peut parvenir à changer la donne, à réduire les inégalités. Je crois qu'à Porto Alegre, il y a eu, en partie grâce au budget participatif dans les années 90, un boost en termes d'indicateurs de développement humain, réduction des inégalités, baisse de la pauvreté. C'est quand même considérable. Ça indique aussi que il suffit pas non plus uniquement de créer de nouvelles institutions. Il faut aussi avoir une pression populaire. Marie-Hélène parlait de ces mouvements associatifs qui sont à l'origine du budget participatif. Au fond, s'il n'y a pas une pression extérieure, un peu à l'image des organisations communautaires que j'évoquais tout à l'heure, qui viennent mettre la pression et créer du rapport de force avec ces dispositifs participatifs, c'est pas sûr qu'ils aient les mêmes résultats.
Merci beaucoup en tout cas à vous, Marie-Hélène Savillas-Boas, je rappelle, enseignante en sciences politiques à l'Université d'Avignon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct. Alors, on parlait du Brésil, il y a aussi évidemment d'autres pays qui proposent des initiatives très intéressantes. C'est le cas de l'Islande, par exemple. Après la crise financière de 2008, face à la défiance croissante des électeurs, le pays décide de créer une assemblée citoyenne, milliers de personnes tirées au sort, et puis quelques centaines d'experts qui les accompagnent pour travailler ensemble et dégager finalement les grandes valeurs sur lesquelles devrait se refonder le pays.
Une constitution ne devrait pas être rédigée par des hommes politiques. Les nôtres ont eu 70 ans pour amender notre constitution provisoire et rien n'a été fait. C'est donc à d'autres de s'en charger.
Le cerveau collectif de ce qu'on appelle la crowd est plus performant que la somme des intelligences de ses membres. Le projet va au-delà de ce qu'il pourrait être s'il ne résultait que de cette seule addition.
Nous voulions procéder de façon totalement différente, en ouvrant le débat à la population même de Reykjavik, en toute transparence. Et ça s'est révélé extrêmement fécond.
À mon avis, chaque génération devrait avoir droit au chapitre sur sa propre constitution, avec la possibilité de l'amender. L'Islande était tout sauf transparente. Elle était corrompue. C'était comme une petite mafia. À l'avenir, nous serons ouverts, transparents et honnêtes.
Voilà, alors pendant plusieurs mois, les plus de 300 000 citoyens islandais ont proposé des amendements en ligne, ont émis des suggestions, notamment via les pages Facebook, Twitter et Flickr du Conseil constituant, avant de se prononcer lors d'un référendum consultatif. Il y a une proposition donc démocratique originale qui a su mobiliser de façon massive, puisque je crois que c'est 12% de la population de l'île qui a effectivement participé à l'élaboration du texte. Ensuite, le texte a été soumis à un vote populaire, c'était en octobre 2012. Il a été adopté par ce vote populaire par 63% des votes. Votre regard, Julien Talpin, sur ce cas islandais, qui apparaît évidemment comme un laboratoire extrêmement intéressant pour ceux qui cherchent à réinventer et à repenser le politique comme on le fait ce matin, à ceci près qu'il faudrait peut-être ajouter, Julien Talpin, que visiblement le politique n'a pas su saisir cette la balle au bond, puisque vous me disiez juste avant de commencer cette émission qu'en fait le Parlement n'a pas relayé cette initiative et donc Donc il n'y a pas eu de réforme constitutionnelle.
Voilà, pour l'instant, le processus est bloqué notamment par le premier ministre islandais. Donc, la situation politique là-bas est un peu instable. Donc, point d'interrogation sur le devenir. Cela n'enlève rien au caractère tout à fait exceptionnel, quand même, de cette expérience où le texte d'une constitution a été écrit en partie par ses citoyens. Et je crois que c'est tout à fait fondamental pour comprendre que les citoyens peuvent participer sur les questions même les plus techniques et les plus importantes. Parfois, on a tendance à considérer que au fond, la démocratie participative, c'est bien pour choisir la couleur des bancs ou l'emplacement d'un arrêt de bus. Or, toutes les expériences qu'on a pu étudier de par le monde, aux États-Unis, en Amérique latine ou ailleurs, montrent que on peut créer les conditions institutionnelles, procédurales, pour rendre les gens suffisamment compétents pour décider sur des questions techniques, en leur apportant l'information nécessaire, en les confrontant à des experts qui ont éventuellement des points de vue contradictoires, en organisant des délibérations, des discussions en petits groupes. Et l'expérience islandaise, est tout à fait exemplaire de ce point de vue-là.
Sauf qu'il n'y a pas eu de réforme constitutionnelle. En tout cas, ce qui est intéressant, Julien Talpin, ce qui est intéressant en tout cas dans ce cas-là, c'est que c'est aussi le retour du tirage au sort, qui était évidemment très utilisé dans les démocraties athénienne, qu'on avait un petit peu oublié. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi est-ce que notre démocratie avait oublié cet outil du tirage au sort.
Alors, la disparition du tirage au sort, en fait, Bernard Manin a écrit un très beau livre sur la question, en fait, est contemporaine de l'avènement de l'élection. Notamment à la fin du 18e, début du 19e siècle. Et au fond, l'émergence de la démocratie représentative qui repose principalement sur le vote est concomitante de la disparition du tirage au sort, parce que la démocratie représentative ne s'est pas construite de façon très démocratique, en réalité. Le but de la démocratie représentative et de l'élection, c'est de sélectionner les meilleurs, au fond. Il y a une forme, certains parlent d'aristocratie élective, ce qui est tout à fait différent de la logique du tirage au sort qui consiste à penser que tout un chacun peut être suffisamment compétent pour décider des affaires communes.
On va parler à présent du numérique. Qu'est-ce que le numérique change à la démocratie ?
Nous avons développé la démocratie représentative parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour que tous ces gens puissent s'organiser. Avec l'invention d'Internet, on a en quelque sorte totalement effacé la distance entre les gens. En une minute, nous pouvons poser la même question à des quantités de personnes dans le pays et en un clin d'œil obtenir des réponses. Ce n'est pas tout. Ces questions ne doivent pas forcément venir des dirigeants. Chacun peut poser les questions qu'il veut et chacun a le droit d'y répondre. La démocratie liquide est un mélange de démocratie de base et de démocratie représentative. Je peux à tout moment choisir de confier ma voix à quelqu'un ou voter directement. L'avantage, c'est que l'on peut à tout moment retirer son vote. En clair, personne ne détient ma voix. Je ne fais confiance à quelqu'un que pour un temps, parce que sur un point précis, il est plus compétent que moi. Voilà le principe, la confiance plutôt que le pouvoir.
La démocratie liquide, une forme de gouvernance où le pouvoir de vote est confié à un délégué plutôt qu'à un représentant. Certains y voient même une synthèse entre la démocratie directe et la démocratie représentative. Une innovation, en tout cas, permise par le numérique. On entendait à l'instant Marina Wesband, c'est l'extrait d'un documentaire intitulé « La démocratie, c'est nous » qui avait été diffusé sur Arte. Marina Wesband, qui est membre du parti pirate allemand, dont l'objectif est justement de rapprocher les citoyens et le politique, et Internet en étant finalement peut-être l'outil. Le parti pirate allemand, et on se souvient, était parvenu à décrocher des sièges lors de l'élection aux assemblées de plusieurs Länder depuis son entrée à la Chambre des députés de Berlin fin 2011. Mais c'est vrai que depuis, il est un tout petit peu en recul. On va accueillir un nouvel invité, Clément Mabie, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Université de Technologie de Compiègne. Vous êtes membre de Démocratie Ouverte, qui est un collectif citoyen indépendant destiné, je cite, je récupère les informations que j'ai trouvées sur le site, à repérer, mettre en réseau et accompagner les innovateurs démocratiques, donner à voir la diversité d'initiatives citoyennes, proposer aux élus et aux administrations des outils et méthodes pour gagner en efficacité et en légitimité. Bref, en gros, faire advenir une société ouverte, plus transparente, participative et collaborative. Vous avez réalisé notamment tout un travail de synthèse intitulé « Renaissance numérique » destiné justement à ces décideurs politiques, dans lequel vous présentiez le dynamisme de la civic tech, c'est-à-dire la technologie civique, et où vous proposiez un certain nombre d'évolutions qui permettraient peut-être à notre démocratie d'intégrer justement les usages numériques des citoyens et les nouvelles possibilités qu'ils permettent. Vous faites le constat, un peu comme tout le monde, que la démocratie est en crise et que le numérique offre des opportunités pour la renouveler. Très concrètement, Clément Mabie, que peut le numérique pour la démocratie ? Est-ce que c'est seulement un espace dans lequel on va améliorer le modèle dans lequel on se situe aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il peut permettre de repenser sa nature même ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, bah déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, le numérique est de plus en plus présent. On participe, on vote, mais cette participation et ce vote n'a pas le même sens que dans la démocratie traditionnelle. Cependant, ce qui est marquant, c'est qu'il transforme en fait la nature de l'engagement des citoyens dans l'espace public. Il transforme le rapport à la citoyenneté et les formes de médiation politique. On parle différemment de politique, on interagit différemment avec la chose publique. Ce qui crée en fait une forme d'appel d'air favorable à l'expérimentation démocratique. Il y a une forme en fait de congruence entre les outils numériques et ce qu'ils permettent, avec plus d'interaction et plus d'horizontalité, et les aspirations de la société, une réponse à un sentiment de défiance, une volonté d'empowerment, comme disait Julien, et une volonté d'interpeller plus fortement les élus pour transformer le jeu politique et replacer la participation dans une logique de transformation sociale.
Les interpeller ou les disqualifier ? Est-ce que le numérique doit modifier la place et le rôle de nos élus ?
Ben, je pense qu'il en le numérique en soi, c'est pas lui qui peut faire ça. Le numérique, c'est avant tout un outil qu'on insère dans un projet politique. C'est-à-dire qu'en fonction des choix techniques qu'on fait, on n'active pas finalement le même modèle politique. On n'incarne pas le même projet. Donc il peut être mis au service de la démocratie représentative pour venir la renforcer, l'enrichir, dans des logiques en diversifiant les formes d'expression, en permettant des nouvelles formes de vote, de consultation, en diffusant l'information. Mais à certaines conditions, en réussissant à s'insérer dans des rapports de force, en réussissant à préserver donc cette dimension transformatrice pour peser sur les débats, il peut venir, pourquoi pas, renouveler la classe politique. On voit des exemples actuellement d'outils qui proposent, comme laprimaire.org ou le collectif Ma Voix, qui proposent des outils pour faire émerger de nouveaux candidats. Donc je pense que le numérique, en soi, c'est suffisamment plastique pour permettre les deux. Tout dépend de ce que les acteurs en font.
Clément Mabi, l'un des risques que certains dénoncent dans cette pénétration de certaines manières du numérique dans l'espace démocratique, c'est le fait que ceux qui participeraient seraient en réalité les plus favorisés. C'est-à-dire ceux évidemment qui ont accès au numérique et à ses outils, ceux qui sont les plus éduqués, ceux qui sont les plus diplômés, peut-être même les plus riches, et que donc finalement les plus défavorisés, il y aurait moins de poids. Et évidemment, on sait combien nous ne sommes pas tous égaux face à Internet. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique selon laquelle finalement le numérique serait inefficace dans la lutte contre les inégalités, qui est quand même l'un des principaux défis pour nos démocraties?
Alors, finalement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, évidemment, le numérique ne résoudra pas à lui tout seul le problème de l'inclusion en démocratie, hein, c'est-à-dire la capacité à mobiliser tous les publics. Cependant, ce que les études montrent, y compris moi les études que j'ai pu réaliser, c'est que le numérique encourage une diversification des publics. C'est-à-dire qu'il y a certaines catégories de la population, typiquement les femmes, les jeunes, qui prennent moins la parole dans les espaces participatifs traditionnels, qui se mobilisent plus facilement en ligne. Donc on voit une diversification et une plus forte mobilisation en termes de nombre. Donc, pour synthétiser, le numérique à lui seul ne sera pas un outil pour universaliser la participation, mais peut venir contribuer à enrichir les publics et à diversifier ses publics.
Clément Mabi, je vais quand même évoquer un certain nombre de propositions que vous avez faites justement dans votre rapport. Alors, elles sont pas toutes là, mais j'en donne quelques-unes. Créer un portail web unique réunissant les différents dispositifs citoyens et participatifs avec une cartographie et un agenda. Inciter les municipalités à proposer des outils numériques de gestion des sinistres permettant aux citoyens de faire remonter des dysfonctionnements qu'ils perçoivent dans l'action publique locale. Institutionnaliser un dispositif de e-pétition, donc de pétition en ligne contraignant, dans lequel, en gros, à partir d'un nombre donné de citoyens, eh bien, l'État serait obligé d'examiner une question qu'il soumettrait, et il y a encore bien d'autres propositions. La question que je veux vous poser, c'est comment ce rapport a été reçu par les responsables politiques? Ils vous ont écouté? Ils ont été sensibles?
Bah oui, l'accueil du rapport est plutôt positif. Hein. En ce moment, il y a une tendance à vouloir justement développer ce que vous évoquiez tout à l'heure, les civic tech, les technologies citoyennes, connaissent un écho favorable, hein, dans la classe politique. Ça bouge. On voit bien la loi numérique d'Axel Lemaire, les consultations menées par Parlement et citoyens autour des projets de loi. Il y a un accueil assez favorable. Après, est-ce que cet accueil va être suffisant pour transformer en profondeur le fonctionnement de la démocratie? On n'en est pas encore là.
Quoi, il vous manque des signes? C'est ce que concrètement?
Oui, concrètement, il manque des signes, parce que on voit bien qu'il y a des expérimentations, il y a des innovations, typiquement, là, je prendrai l'exemple du projet de loi sur la loi biodiversité qui a été débattue et amendée par les citoyens en ligne. Il y a eu plus de 9000 contributions citoyennes qui ont profondément modifié le projet, mais cette version amendée par les citoyens a été très largement détricotée en deuxième lecture au Sénat. Donc, voilà.
On voit qu'il y a encore des efforts du côté de nos responsables politiques. En tout cas, merci beaucoup, Clément Mabi, d'avoir été avec nous ce matin. Et un grand merci à vous, Julien Talpin, de nous avoir accompagnés ce matin pour éclairer cette démocratie délibérative. Il faudra encore attendre un petit peu, mais on sent que ça vient. Et je rappelle évidemment pour les auditeurs, votre ouvrage extrêmement intéressant, Community Organizing, un modèle qu'il faut regarder bien sûr, parce que ça pourrait inspirer pour nous Français, de l'émeute à l'alliance des classes populaires aux États-Unis, qui était paru aux éditions Raison d'agir. On mettra bien sûr toutes les références sur le site de Culture Monde.